pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à tous, bonjour Clara.
Bonjour Emma, bonjour tout le monde.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 21 octobre et aujourd'hui nous allons parler de médiation scientifique.
Un sujet déjà abordé dans une autre émission sous l'angle de la vulgarisation scientifique à travers la littérature jeunesse avec la journaliste scientifique Claire Lecoeuvre. Aujourd'hui, on va aborder la médiation scientifique au sens large, à travers l'action des acteurs et actrices du territoire comme l'Atrium et Planète Science.
Dans ce cadre, nous nous sommes rendus vendredi dernier au FENO, le Festival de l'Excellence Normande, qui s'est tenu cette année à Rouen. À cette occasion, nous avons enregistré l'entretien de ce nouveau numéro de C'est pas faux avec Louane Caillot, chargée de projet mixité et inclusion à l'Atrium de Rouen, et François Berthemont, directeur de Planète Science Normandie.
Mais avant de passer à l'entretien, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Depuis lundi se tient le congrès de cancérologie de l'ESMO à Berlin. Près de 35 000 oncologues se réunissent et la plupart sont chinois.
Ces derniers ont exposé des résultats qui donnent de l'espoir aux patients atteints d'un cancer du poumon. En France, près de 50 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Les laboratoires chinois ont par ailleurs développé deux médicaments pour traiter deux types de cancers du poumon à des stades métastatiques différents. Pour le premier, il s'agit d'imaginer une flèche capable d'aller directement dans la tumeur pour la tuer avec la chimiothérapie. Ce dernier a diminué de 40% le risque du décès. Quant au deuxième, il vise deux cibles à la fois. Ce dernier a testé à la place de l'immunothérapie sur des malades gravement atteints en leur donnant 4 mois de survie en plus.
Mais qu'est-ce qui pose problème avec ces médicaments ?
Le seul bémol de ces médicaments, c'est qu'ils ont été testés uniquement sur des malades chinois. On ne connaît donc pas les résultats sur une population européenne. Le nombre d'essais cliniques pilotés par les Chinois est passé de 4% il y a 10 ans à 40% aujourd'hui, après être passé devant l'Europe en matière de recherche. La Chine talonne les États-Unis. Aujourd'hui, plus de la moitié des nouveaux médicaments viennent d'Asie, en majorité de Chine. Dans le Val d'Oise, une tornade a causé la mort d'une personne lundi après-midi.
Pour la première fois depuis 17 ans en France, une tornade à Hermont, dans le Val d'Oise, a provoqué la chute de 3 grues et a fait au moins 1 mort, 4 blessés en urgence absolue et 5 en urgence relative, a annoncé la préfecture ce lundi 20 octobre. La présence de ce phénomène météorologique est exceptionnelle. En théorie, les régions à risque sur le territoire français sont les Hauts-de-France, la Normandie, la région Poitou-Charentes, la Vendée, le Languedoc et la Provence, et non l'Île-de-France. Des dégâts matériels sont également à déplorer. Selon Enedis, 1700 foyers étaient privés d'électricité ce mardi matin, principalement dans le secteur d'Hermont.
Comment expliquer un tel phénomène ?
Selon Météo France, une tornade est un tourbillon de vent violent se développant sous un cumulonimbus, une sorte de nuage, et se prolongeant jusqu'à terre. La tornade est rendue visible par les gouttelettes de condensation qui y naissent, formant une excroissance du nuage en forme d'entonnoir. En France, leur diamètre varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres pour un parcours de quelques kilomètres et une durée de vie dépassant rarement 15 minutes. Les fortes tornades sont produites par les orages. Ces orages se forment dans des conditions très instables lorsque la température décroît rapidement avec l'altitude et en présence d'une importante variation du vent. Des astronautes amateurs viennent de repérer une nouvelle structure cosmique 10 à 20 fois plus vaste que la Voie lactée il y a quelques semaines, une information reprise par les médias récemment.
Il s'agit d'un double anneau plus grand que notre galaxie, mais cet objet n'émet pas de lumière visible, ne produit que des ondes radio. Ce sont des ondes électromagnétiques de même nature que la lumière, mais avec une fréquence beaucoup plus basse et qu'on ne peut pas voir. Ce sont les mêmes gammes d'ondes qu'on utilise pour entendre la radio.
En quoi sont constitués ces anneaux ?
Vraisemblablement, ces anneaux seraient constitués de plasma, c'est-à-dire d'un gaz électrifié et magnétisé. C'est la même matière que dans les éclairs. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'ondes de choc dues à la fusion de deux trous noirs ou à la collision des galaxies. Mais la toute dernière étude suggère qu'il s'agirait plutôt de vents galactiques liés à la formation d'étoiles. La découverte est récente de quelques semaines, mais l'objet, lui, est très ancien. Dans le cas des anneaux, on estime qu'ils datent de quand l'univers avait environ la moitié de l'âge qu'il a aujourd'hui, soit 7 milliards d'années. Le garde des Sceaux veut proposer l'autorisation de la généalogie génétique pour les affaires non élucidées.
La généalogie génétique est une technique qui permet de comparer la trace génétique inconnue avec les bases de données américaines, qui comprennent notamment des millions d'ADN cédés volontairement à des sites qui proposent des tests récréatifs, illégaux en France, à des personnes curieuses de leurs origines. L'idée consiste à exploiter l'ADN retrouvé sur une scène de crime, non pas pour remonter directement jusqu'à l'auteur des faits, mais jusqu'à des personnes qui lui sont apparentées.
Qu'en est-il de l'utilisation de cette technique en France ?
En France, en 2022, la généalogie génétique a permis d'identifier Bruno L., un retraité de 62 ans vivant en Seine-et-Marne, comme l'auteur d'une série de viols commis entre 1998 et 2008 en région parisienne. À ce jour, environ 500 affaires ont été élucidées grâce à la généalogie génétique, utilisée à des fins médico-légales. Lundi 20 octobre, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, a annoncé lors d'une visite au pôle dédié aux affaires non élucidées au tribunal judiciaire de Nanterre qu'il proposera dans le cadre d'une loi en janvier l'autorisation de la généalogie génétique par des magistrats. Jusque-là, sans cadre légal en France. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'affaires au pôle Cold Case qui trouveraient une réponse si nous acceptons la généalogie génétique, a déclaré le garde des Sceaux hier à la presse.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On se retrouve aujourd'hui au FENO, le festival de l'excellence normande, qui donne à voir aux Normands que leur région invente, crée, réalise des projets et produits d'excellence et les diffuse à travers le monde entier.
Le FENO 2025, ce sont 440 exposants répartis sur les 35 000 m² du parc des expositions du Rouen autour de la gastronomie, l'artisanat, la culture, l'innovation, l'environnement ou encore le bien-être.
En tant qu'émission de culture scientifique, on va faire un focus sur l'espace thématique à toutes jambes qui fait cap, entre autres, sur la médiation scientifique. On peut d'ailleurs y retrouver l'Atrium de Rouen.
Ce dernier est le fruit d'un partenariat entre une association de culture scientifique, Sciences Action en Normandie et l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Pour ce faire, nous recevons Louane, chargée de projet de mixité et d'inclusion.
Enfin, au sein du dispositif Cogito, le réseau régional des actrices de la culture scientifique, technique et industrielle en Normandie, qui est instant dans ce même espace, on retrouve Planète Science. Ces derniers ont pour but de favoriser auprès des jeunes de 8 à 25 ans l'intérêt de la découverte, la pratique des sciences et des techniques, en allant à leur rencontre. Et dans ce cadre, on reçoit François Berthemont, directeur de Planète Science Normandie. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, le concept de médiation scientifique peut être abstrait pour les auditeurs et les auditrices. Comment définirez-vous ce concept, Louane ?
Donc pour moi, la médiation scientifique, c'est vraiment l'idée qu'on vient créer un pont entre la science et la société. Donc vraiment, on vient faire de la sensibilisation, de la vulgarisation. C'est un mélange en fait, de plusieurs concepts de transmission des sciences auprès du grand public, des scolaires. Et voilà, c'est aussi de l'adaptabilité, puisqu'on vient, adapter la façon dont on va vulgariser les sciences selon le public.
François ?
Je pense que ça peut être abstrait, parce que je pense que aussi les différents acteurs, ils mettent des sens un peu différents. Il y a un sens commun et des nuances après dans l'approche. Planète Science Normandie, qui est le membre du réseau Planète Science, qu'on retrouve un peu partout en France. Déjà, on est sur un public spécifique parce que nous, c'est le sous-titre de l'association, c'est une aventure pour les jeunes. Donc on s'adresse déjà, on peut s'adresser à tous les publics. Ce qu'on propose ici à FENO, c'est ça s'adresse à tous les publics, mais on a quand même une spécificité de s'adresser au public jeune. Et donc pour moi, la médiation pour les jeunes, c'est d'amener des concepts scientifiques les plus pointus possibles et de les rendre le plus accessibles à toutes les tranches d'âge qui composent la jeunesse, parce que la jeunesse, après, on peut aussi la redécouper par tranche d'âge. Et nous, notre principe à nous, c'est de faire ça avec le fait de manipuler des concepts. Donc on a beaucoup d'ateliers, et vraiment notre spécificité, c'est ça, on n'est pas trop dans la démonstration, on est plutôt dans fabriquer des objets qui mettent en œuvre des concepts scientifiques pour les comprendre. Et donc voilà, dans la médiation, on ne fait pas tous la même chose, on n'a pas tous la même façon d'amener la science en fonction du public et en fonction des spécificités des acteurs.
Il y a 15 jours, nous recevions dans C'est pas faux Claire Lecoeuvre, journaliste scientifique et autrice jeunesse, à propos de la vulgarisation scientifique à travers la littérature jeunesse. Selon elle, il faut aborder les sciences avec le jeune public de la même manière qu'on les aborderait avec les adultes, parce que, je la cite, quand on comprend véritablement le monde dans lequel on vit, on est en capacité de le changer. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ?
Oui, plutôt. Parce que effectivement, quand on regarde quels sont les centres d'intérêt des jeunes dans la littérature, on voit que On a beaucoup de romances, notamment, parce que c'est Lecture Jeunesse qui a sorti beaucoup de rapports sur ce sujet-là. Et on voit bien qu'il y a un manque de représentation aussi, de notamment, enfin, je parle dans mon cas, puisque j'étudie tout ce qui est mixité, de représentation des femmes scientifiques dans la littérature jeunesse. Et si on adressait cette littérature, si on l'adaptait aux jeunes pour avoir la même représentation que chez les adultes, on infantiliserait peut-être un peu moins les jeunes sur ce côté-là.
Je pense que c'est intéressant. Il y a des enjeux. Par exemple, là, à Fesneau, c'est un peu l'exemple. On a travaillé et on est financé par la région Normandie sur un dispositif qui s'appelle 3NC, Normandie Nucléaire Nouvelles Compétences. Sur la question du nucléaire, je prends ça comme exemple, mais il y en a plein d'autres, parce qu'on est dessus, mais sur la question du nucléaire, par exemple, il est important que les gens, dans leur ensemble, les jeunes particulièrement pour nous, comprennent ce qu'il y a derrière ça, parce que c'est une thématique particulière où il y a beaucoup d'enjeux de compréhension, parce qu'on parle de choses... En fait, beaucoup de gens en parlent, peu la comprennent, et donc nous, on n'est pas là pour leur mettre une idée positive ou négative dans la tête, mais... essayer de monter des animations où on est sur des choses qui ne sont pas visibles, on est sur des choses qui ne sont pas palpables, et il faut essayer de transformer ça en une conception intellectuelle qui permette aux gens de comprendre ce qui se passe dans un truc invisible et impalpable. Et donc, en effet, c'est des enjeux. Et donc, c'est sur le nucléaire, comme surtout quand on fait de la fusée, de la robotique, etc. C'est, y a moins la notion de faire comprendre pour mieux... gérer la question de l'inquiétude et du risque, mais la question de la compréhension, elle est fondamentale.
Et durant ce même entretien, a été soulevée la question du niveau d'expertise des différents intervenants et intervenantes. On se posait la question de est-ce qu'il fallait être soi-même scientifique pour faire de la vulgarisation ou de la médiation scientifique. Vous, par rapport dans vos parcours personnels, est-ce que vous êtes vous-même scientifique ou est-ce qu'il faut être scientifique pour faire de la médiation?
Moi, j'ai raté toutes mes années de fac, mais... J'y passais beaucoup de temps, mais a beaucoup échoué. J'ai un bac S quand même. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je ne suis pas un haut scientifique de haut niveau. Et nous, dans les publics qu'on touche, il y a différentes approches dans la discussion scientifique jeunesse. Moi, je pense que c'est plus facile à des bons animateurs d'acquérir des notions scientifiques pour ensuite les retransmettre. Et je pense que ça passe mieux dans ce sens-là. C'est parfois beaucoup plus compliqué d'avoir des bons scientifiques et de leur faire adapter un discours et des principes de fonctionnement d'un atelier, etc., pour qu'ils les rendent accessibles. Donc je répondrai que c'est important d'avoir soi-même la compréhension pour pouvoir transmettre, mais je pense que c'est plus important pour le public jeune d'avoir quelqu'un qui est capable de les captiver. Et ensuite, on peut le faire pas devenir scientifique, cet animateur, mais... on peut lui apprendre à apprendre les notions.
Je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais que c'est pour ça que le métier de scientifique et le métier d'animateur et le métier de médiateur sont trois métiers différents, puisque c'est bien d'avoir des bases scientifiques, puisque ça nous apprend aussi une certaine rigueur, une certaine logique, et donc après c'est peut-être même plus facile de faire de la vulgarisation de concepts scientifiques quand on a soi-même les bases. Mais effectivement, je pense que c'est possible d'être un bon animateur et de faire de la bonne médiation sans avoir pour autant une formation scientifique derrière, puisque expliquer des concepts scientifiques, et maintenant avec toutes les ressources disponibles, c'est possible aussi de se renseigner par soi-même sur les sujets et de rentrer plus ou moins dans les détails, ou de collaborer avec des personnes qui sont réellement scientifiques et réussir à vulgariser et faire de l'animation auprès d'un public où on sait plus ou moins comment expliquer, puisque nous-mêmes on a dû l'apprendre avant. C'est-à-dire que dans nos métiers, on ne fait pas forcément toujours de la médiation scientifique sur des concepts qu'on a vus avant. Si je prends mon exemple, j'ai une formation en biologie, j'ai fait de la médiation sur l'informatique alors que je n'ai pas de formation en informatique. Mais c'est justement plus facile d'expliquer un concept quand nous-mêmes, on a dû le comprendre en amont. On sait où ça va bloquer pour le public.
Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à un mot, c'est la curiosité. En fait, je pense qu'il faut être curieux. En fait, la qualité première, c'est ni d'être un bon scientifique, ni d'être un bon médiateur, c'est d'être curieux, de s'intéresser soi-même. Et après, quand on s'intéresse, en fait, je pense que ça vient tout seul de pouvoir réexpliquer un truc qu'on a compris. C'est hyper valorisant, on est tous contents. Je pense qu'on a compris un truc nouveau. De dire, j'ai entendu parler de ça, voilà. Je pense que c'est ça le truc.
Oui, je suis d'accord.
Le dispositif Cogito, on en a parlé en introduction de cette émission, c'est un réseau régional de la culture scientifique qui est né d'une volonté partagée, permettre aux citoyens et citoyennes de comprendre le monde actuel et de se préparer à vivre dans celui de demain. Planète Science, vous faites partie de ce réseau. Qu'est-ce que cela vous apporte de faire partie d'un réseau comme celui-ci ?
Alors nous, on n'est pas hyper encore investi dans le réseau. Par contre, ça fait longtemps qu'on travaille avec ce qu'on appelle les CCSTI. On va faire un peu de jargon avec des sigles. Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, CCSTI, qui sont aujourd'hui les porteurs du réseau Cogito. Et ça fait quand même longtemps qu'on travaille en réseau, on se connaît très bien. Donc on n'a pas créé Cogito. Quand on a créé Cogito, on n'a pas créé le fait qu'il y ait des acteurs qui se rencontrent et qu'il y ait des structures qui soient porteuses de ça. On lui a donné un nouveau nom, un nouvel élan et une dynamique plus large et régionale. Donc c'est super. Pour l'instant, nous, on n'a pas beaucoup de temps disponible aussi à investir suffisamment ces réseaux-là pour être précis là-dessus. Si ce n'est que voilà, le fait d'être identifié par des structures scolaires, des structures politiques, les villes, les conseils départementaux, les conseils régionaux, etc. Ça nous apporte en termes de lisibilité et en termes de promotion aussi, parce que faire connaître ce qu'on fait, c'est une bataille quand on est une petite association. Enfin, nous, c'est un conseil d'administration de 5 personnes avec un demi-salarié, parce que je ne suis même pas à plein temps, et plus des salariés occasionnels. Enfin, c'est des micro-structures et on est beaucoup à être dans ce cas-là sur le domaine notamment de la jeunesse. Et bah, un réseau Cogito, il nous met en avant nos actions là où nous, on n'a pas le temps en fait, de mettre en avant nos actions. Et donc, c'est un gain d'énergie aussi qui est quand même incroyable, même si on était un peu plus nombreux, on pourrait mieux encore exploiter la force de ce réseau.
Concernant l'Atrium, c'est un espace de 1000 mètres carrés géré par Science Action Normandie qui accueille plus d'une quinzaine d'associations régionales et qui œuvrent toutes pour le partage des savoirs et des connaissances dans différents domaines. Comment se déroule la coordination de ces 15 associations ?
Alors, on ne travaille pas toutes ensemble. En fait, effectivement, il y a plusieurs structures dans l'Atrium. Donc, l'Atrium est un espace partagé par 17 associations différentes. Nous, à notre échelle, on va travailler majoritairement en collaboration avec l'Agence de l'orientation, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Après, effectivement, les autres associations vont gérer de leur côté. Chaque association gère ses actions. Je dirais que on n'a pas forcément de, on n'est pas les acteurs qui coordonnent l'intégralité des associations dans l'Atrium.
Donc elles sont toutes autonomes les associations.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez des projets des fois communs ? C'est quoi l'intérêt aussi de ce grand bâtiment qui accueille autant d'associations et qui ont un même but ? C'est quoi l'intérêt pour vous aussi ?
Oui, on valorise les actions menées par les autres associations aussi. Lorsqu'on monte une nouvelle exposition, si certaines ont des projets qui s'inscrivent dans le thème de l'exposition, on vient les valoriser dans un espace. L'exposition est généralement séparée en deux. On a toujours un espace qui est sur une exposition qu'on nous prête et l'autre espace qui est un espace qu'on co-construit avec les acteurs du bâtiment et les partenaires aussi en région, selon la thématique de l'exposition. On coordonne beaucoup d'actions avec l'Agence de l'orientation, donc on va venir faire des ateliers en commun, co-construire des outils, et c'est aussi ce qui a été dit sur le réseau Cogito, c'est venir valoriser et mutualiser les ressources pour faire mieux ensemble et puis permettre d'améliorer l'impact de nos actions en région.
Vous partagez tous la volonté commune de rendre accessible la science au plus grand nombre, mais concrètement, comment ça se matérialise ? Comment on attire le grand public, les jeunes de tous milieux sociaux à des ateliers ou à des expositions ? Vous parliez des écoles tout à l'heure, par exemple. Quelle est votre démarche pour...
Ah, nous, on n'est pas du tout dans le concept d'exposition, par exemple. Donc, c'est là qu'on rentre dans le détail de la multiplicité des actions différentes pour médiatiser, mais faire de la médiation scientifique. Mais nous, le gros de nos actions, en fait, c'est pas du tout de faire ce qu'on fait ici à Fesneau, c'est même plutôt exceptionnel. Donc c'est vraiment, on sort le mode d'événementiel pour la Fête de la Science, Fesneau et quelques autres événements dans l'année. Mais le gros de notre action, c'est d'aller dans les écoles, les centres de loisirs, les centres de vacances, et quand je dis école au sens large, hein, lycée, collège, etc., et en fait de proposer des séances d'animation sur les différentes thématiques que l'on traite pour faire bénéficier aux jeunes qui sont souvent demandeurs via leurs professeurs de ça. Et en fait, on vient beaucoup, du coup, en complémentarité, et c'est une des reconnaissances qu'on a de l'État, en complémentarité de l'école. Beaucoup en complémentarité de l'école, à la demande des enseignants, parce qu'on a des supports d'animation que les établissements scolaires n'ont pas. Et on vient beaucoup en complément du programme scolaire. Par exemple, on emmène un planétarium dans un collège, quand on parle d'astronomie, quand on parle d'étoiles, quand on parle du système solaire. Et on en parle un peu dans tous les niveaux. C'est ça qui est bien aussi dans l'organisation des programmes. Donc ça peut s'adapter à toute tranche d'âge et ça donne une vraie plus-value. On peut faire des soirées d'observation, toujours sur la thématique de l'astronomie. Chaque collège ou chaque lycée n'a pas son télescope et ses lunettes astronomiques. Voilà, donc c'est enrichissant. On va faire des fusées à poudre aussi, sur le même modèle que les fusées à Ariane, par exemple, avec le même type de carburant, en quantité infime. Mais voilà, ça permet d'appuyer des propos qui sont vus en cours sur du papier, des livres et éventuellement des vidéos. Bah là, on va pouvoir aller les pratiquer. Il suffit de nous faire venir dans l'établissement et nous, on vient avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on agit la majeure partie du temps.
Louane, comment vous faites venir le grand public ?
Alors nous, on a différents... Enfin, c'est toujours lié au thème de l'exposition en cours, c'est-à-dire qu'on va avoir deux lignes en parallèle. On va avoir la ligne directrice qui est en lien avec l'exposition. Donc, pour faire venir les scolaires, ça va être en lien avec le programme scolaire, quelles sont les notions que les enseignants souhaitent transmettre ou appuyer en lien avec effectivement ce qui est vu en cours. Et donc, on va faire des ateliers à destination de tous les âges en fonction de ce qui est dans le programme scolaire en lien avec, par exemple, là, c'est l'océan en ce moment, donc en lien avec l'océan, la gestion de l'eau, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait attirer et permettre d'appuyer ce programme-là. Et ensuite, la deuxième ligne, ça va être plus tout ce qui est lié mixité et inclusion, qui se déroule en parallèle de l'exposition et qui permet d'aborder également des notions qui sont importantes pour l'éducation nationale et dans le programme, mais également dans le primaire et secondaire d'ailleurs.
Et on le disait dans l'intro, du coup, l'Atrium était un fruit d'un partenariat entre une association de culture scientifique Sciences et Action Normandie et l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Comment aujourd'hui on fait pour éveiller des vocations scientifiques chez les jeunes quand, par exemple, vous allez dans les écoles ou
Ça va être plutôt un travail sur le fond, c'est-à-dire que pour attirer les jeunes dans les sciences, puisque aujourd'hui effectivement il y a de moins en moins de jeunes qui s'y intéressent, il faut travailler sur le pourquoi ces jeunes-là ne veulent plus faire de sciences. Et souvent ça va être un problème de représentation, par exemple. Moins il y a de représentation, moins on s'y projette. Donc nous, on va organiser des rencontres, on va organiser des rencontres professionnelles, donc soit des conférences, soit faire venir directement dans les établissements scolaires, puisque on le sait aussi, les établissements qui sont en territoire ruraux vont peut-être moins se déplacer, donc les jeunes des territoires ruraux vont peut-être moins se projeter dans des carrières scientifiques. Et on va essayer aussi de désacraliser ce qu'il y a autour des sciences. On a tendance, dans l'inconscient, à penser que les sciences, c'est une histoire d'élite. Voilà, nous, on va venir essayer de déconstruire un peu tout ça, en mode présenter les différents métiers scientifiques, avec l'Agence de l'orientation notamment, et puis montrer que cette image de sciences qui sont dures, qui sont que pour les garçons, enfin voilà, tout ça, c'est des images fausses. Donc on va venir faire des ateliers directement avec les écoles et essayer de travailler sur ces aspects-là qui sont des aspects sociétaux et qui poussent les jeunes à déserter les sciences.
Et vous, François, quand vous intervenez dans les écoles, est-ce que déjà il y a un objectif de créer une vocation ? Peut-être pas le cas. Et si c'est le cas, comment on a
travaillé un petit peu l'année dernière sur ce qu'on appelle les box métiers avec l'Agence de l'orientation. Nous, notre truc, c'est quand même de rendre ça fun, en fait. Voilà. Parce que, quand je disais tout à l'heure, on intervient dans les écoles, on intervient dans les centres de loisirs. En fait, évidemment, on ne met pas le même rapport de fun et de contenu selon le milieu dans lequel on se trouve, mais quand même, il y a toujours une dimension où l'important, c'est de montrer que on fait des trucs cool, quoi. Des trucs drôles, en fait, des trucs sympas. Que travailler la matière, c'est aussi quelque chose d'important. Et voilà, essayer de donner du concret, on essaie de donner du concret, du ludique. Alors nous, on n'est pas du tout dans l'objectif de créer des vocations, mais je pense, j'espère en tout cas que ça en crée. Parce que voilà, de désacraliser un peu tout ça, parce qu'on est encore, et moi je commence à avoir quelques années depuis ma période de primaire, mais on n'a pas beaucoup changé les représentations sur le fait que les métiers scientifiques, c'est le mec, en l'occurrence peu souvent la fille, en blouse blanche, dans son labo, ou alors le geek, le nerd devant son PC qui décroche pas de son écran. Bon, en fait, ça peut être ça, mais du coup, on peut aussi pas décrocher de son écran pour faire un petit robot qui avance tout seul, qu'on a conçu soi-même et qu'on a assemblé avec ses mains, quoi. Et là, ça donne tout de suite un côté un peu plus sympa.
On le sait, et on en a déjà parlé plusieurs fois, il existe toujours un écart de représentation entre les genres dans les domaines scientifiques. Et ça commence tôt. À la rentrée 2023, 46% des filles n'ont choisi aucun enseignement de spécialité scientifique, contre 26% des garçons au lycée. Et 33% des filles ont choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité, contre 57% des garçons. Vous, Louane, vous êtes chargée de projets mixité et inclusion à Sciences Action Normandie. Comment expliquer cet écart déjà dans un premier temps ?
Comme je disais, on a beaucoup d'aspects sociétaux. Ça va être, je disais, le manque de représentation, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans les films, les publicités, la représentation des femmes en sciences, elle est faible. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les publicités, il y a très peu de pubs où on voit des femmes jouer le rôle d'expertes dans leur domaine. À moins qu'experte en lessive soit un métier, mais je ne suis pas sûre. Donc, y a un problème de représentation et de combat d'image, finalement, qu'il faudrait mener de ce côté-là. Les films, c'est pareil. Voilà, les jeunes regardent beaucoup les réseaux sociaux aussi. Il y a des tests qui avaient été faits, des études qui ont été faites par des chercheurs pour voir sur quel contenu tombaient les jeunes, même sans liker ou autre, juste avec un scrollage infini. Le contenu est déjà plus ou moins orienté selon le genre qui a été rentré sur l'application quand on s'est inscrit. Donc, c'est pas seulement parce qu'il y a un désintérêt des sciences dans la façon dont elles sont enseignées, c'est également parce que tout le contexte autour fait que ça vient potentiellement décourager les jeunes de faire des sciences. Il y a ce déséquilibre aussi qui est accentué par la réforme du bac qui a eu lieu en 2019, où il y a eu un désintérêt des filles et des garçons pour les filières scientifiques. C'est-à-dire qu'avant 2019, les sciences étaient plus ou moins maintenues dans toutes les filières, que ce soit L ou ES, on avait toujours des enseignements en mathématiques. Là, depuis la réforme, on a 60% de filles en moins dans les filières scientifiques, et puis chez les garçons, on a une grosse baisse également. Donc voilà, c'est que la société, les réformes font qu'aussi il y a beaucoup moins de jeunes qui s'orientent en sciences.
Et à travers la médiation scientifique, est-ce qu'on a des moyens d'action pour agir à ce niveau-là ? Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué ? Est-ce que, voilà, d'après votre expérience ?
Il y a eu des tas de dispositifs d'État, de régions, de départements pour inciter les filles, les femmes à se diriger vers des carrières scientifiques. Je suis un peu désabusé parce que je crois qu'on s'y est tous mis avec beaucoup de volonté, mais que je suis un peu dans le constat que malheureusement c'est un échec. Et c'est vrai, la réforme du bac, bon, moi on a dû me l'expliquer, comme je suis souvent dans des établissements scolaires, à chaque fois je demande un peu comment ça fonctionne, à force de répéter, j'arrive à peu près à comprendre. Moi je me demande comment les jeunes qui se retrouvent face à ces choix-là, ils arrivent à s'en sortir. Et sans parler des jeunes qui s'intéressent à un objet scientifique mais qui du coup vont pas pouvoir aller en études supérieures parce qu'il n'y avait pas le complément qu'il fallait. Enfin, c'est très compliqué de cette réforme. En soi, elle n'est pas si compliquée, mais c'est compliqué de se projeter, en fait. C'est que le choix des options, en fait, va pouvoir aussi fermer des portes, notamment dans les carrières scientifiques, parce que si on n'aime que l'informatique, on peut avoir une option informatique, mais si on n'a pas fait les maths à côté ou la physique, on ne va pas pouvoir aller au BTS ou à l'IUT qui correspond à la poursuite de l'informatique. Donc, peut-être aussi que l'enseignement supérieur a progressé sur l'ouverture de ces choix de filière, mais en tout cas, il y a un truc qui se joue là-dedans. Et sur la mixité, alors moi, je constate quand même que, en termes d'animation et d'animateur, en fait, c'est un métier pour le coup, hors science, hein, animation, animateur de centre de loisirs généraliste. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, comme moi, mon parti pris, c'est plutôt de recruter des animateurs et de leur faire intégrer des notions scientifiques. J'ai pas trop de mal à avoir des équipes féminines, pour le coup. Mais c'est pas révélateur de ça se traduit pas après dans l'impact. Nous, on n'a pas de vocation non plus à avoir d'impact sur les carrières, mais ça se traduit pas énormément dans les choix. Par contre, on retrouve quand même des jeunes qui nous ont dit ce qui m'a donné envie de faire des sciences au lycée, c'est tel ou tel projet qu'on a mené avec Planète Science parce que c'était trop bien, un ballon météo, une microfusée expérimentale, etc., etc. Il y a quand même quelques exemples, mais c'est peut-être plus du cas individuel, mais moi je trouve ça valorisant, donc je le garde quand même.
On le voit aussi sur les actions qu'on mène, que c'est parce qu'il y a des actions qui se font dans les établissements scolaires que les jeunes s'intéressent aux sciences. Là, j'ai rencontré la semaine dernière des collégiens qui disaient « Oui, bah, moi, j'ai envie de devenir hacker, donc hacker éthique. » Donc, bon, c'est pas hacker pour hacker des entreprises, mais chercher où sont les failles pour les...
Pour les... qu'on sait faire les deux, une fois qu'on a appris.
Oui, ouais, c'est sûr. Donc, il voulait devenir hacker parce que quelqu'un était intervenu dans l'établissement scolaire pour présenter son métier. Donc, on sait que les actions qu'on mène, que ce soit des actions de médiation avec de l'animation sur des fusées, des choses comme ça, ou des rencontres professionnelles, ont quand même un impact sur les jeunes. C'est justement le fait d'en mener de plus en plus, je pense, qui amènera les jeunes à s'intéresser à ces filières-là.
Et on a quand même un vrai problème à déployer de la quantité parce qu'on a des modèles économiques où si on veut intervenir dans les établissements, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance. Et je ne vais pas faire de politique ici, mais on a constaté que, par exemple, Pass Culture, qui était une grosse source pour les enseignants de pouvoir nous faire intervenir avec des financements dans les établissements, bah, ça existe toujours, mais ça a quand même été divisé par deux. Et déjà, dans Pass Culture, la culture scientifique et technique n'est pas trop la plus mise en avant. Pass Culture, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'offres sur la culture artistique. Donc c'est un vrai combat et c'est quand même triste à entendre que là, ça fait quand même 2 ans où de plus en plus, les gens nous appellent en disant « on aimerait bien vous faire venir, mais je vous préviens tout de suite, on n'a pas d'argent ». Donc en fait, nous, l'argent, on n'a pas non plus. En fait. Donc voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, on en revient toujours à ça et on sait que ça a un impact. Mais c'est de plus en plus difficile de pouvoir intervenir dans cet établissement, pas parce qu'il y a des manques de volonté, mais parce qu'il y a des manques de financement.
Et face au contexte actuel, donc je pense aussi ici au changement climatique, à la multiplication des outils numériques de plus en plus performants, est-ce qu'il y a des thématiques scientifiques qui vous semblent aujourd'hui urgentes à aborder auprès du jeune public, du grand public? Voilà, dans le choix de vos thématiques, est-ce que cette actualité, ces actualités interviennent?
Oui, bah, on voit notamment l'essor de l'intelligence artificielle, par exemple. Ça, c'est un sujet qui est très d'actualité, qui est beaucoup utilisé par les jeunes. On retrouve... Bon, là, je reviens encore sur les biais sexistes, mais on a beaucoup de biais sexistes qui sont transmis par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai qu'on vient, mettre le holà sur ce côté-là et puis venir dire aux jeunes aussi, bah, voilà, faites attention à ce que vous générez comme contenu, à ce que vous utilisez comme intelligence artificielle. On vient parler du fait que ce sont des humains derrière, que... il faut rester critique et savoir après faire aussi de la recherche sur les infos qui ressortent. Donc on essaye de travailler avec les enjeux actuels pour sensibiliser aussi les jeunes à tout ça. Mais après, voilà, est-ce que ça a un impact? Je ne sais pas.
On a le droit aux réponses politiquement incorrectes. Nous, on va là où il y a de l'argent sur les thématiques. En fait, à Planète Science, on a quand même une spécificité historique parce qu'on a été fondé, le réseau Planète Science a été fondé par des ingénieurs du CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. Donc, c'est pas anodin. Ça s'appelait pas Planète Science à l'époque, ça s'appelait la NSTJ, mais peu importe. On a quand même notre thématique historique sur la question de l'espace. Et en fait, ça fait longtemps que cette thématique de l'espace, les fusées, les satellites, etc., elle était un peu dormante, ronflante dans le fin fond des tiroirs. Et puis, il faut dire ce qui est, on en pense ce qu'on veut, mais depuis que Elon Musk a créé sa société de fusées, dont le nom m'échappe, ce qui est quand même dommage, que tout le monde connaît, si quelqu'un a l'aide, mais ces fusées-là qui ratterrissent sur leurs pieds, bon, ça... Et puis, aujourd'hui, voilà, avec la Station Spatiale Internationale, bref, ça a remis aussi de la lumière sur cette thématique qu'on pouvait croire un peu désuète depuis qu'on a abandonné la conquête de la Lune. Donald Trump a déclaré que comment dire, il fallait retourner sur la Lune, que ça devenait une urgence pour son pays. En fait, il y a des fois, la société, elle nous rattrape. Et alors nous, on ne va pas traiter ça de la même façon que Donald Trump. Mais en tout cas, c'est sûr que bah, y a un engouement pour la question des fusées depuis quelques années. Et c'est aussi les actualités. En Normandie, on a la construction de l'EPR de Flamanville qui vient de se terminer. Deux EPR en construction future à Penly. Il y a un besoin du coup qui est un peu créé particulièrement en région de s'approprier la question du nucléaire sur deux aspects. L'aspect dont tu parlais tout à l'heure sur le lien métier, donc d'orienter et d'inciter des jeunes à se diriger vers des filières qui vont embaucher demain. Et au-delà de ça, en même temps, les gens s'inquiètent parce que c'est le nucléaire. Donc pour nous, il y a aussi la nécessité absolue de faire comprendre comment ça fonctionne une centrale nucléaire et tout ce qui va autour et plus généralement la question de l'énergie, de la gestion. Donc en fait, nous, comment on va sur nos choix de thématiques, il y a plusieurs facteurs, mais c'est quand même beaucoup porté par les actualités.
On l'a dit, aujourd'hui, nous enregistrons cette émission au FENO, le Festival de l'Excellence Normande. Vous avez toutes et tous un stand ici. Quelles sont les animations que vous avez prévues lors de cette journée au Parc Expo de Rouen ?
Nous, on a, par ce dispositif dont je vous parlais tout à l'heure, 3NC, Normandie Nucléaire Nouvelles Compétences, on a demandé un financement qu'on a obtenu il y a quelques mois pour, dans une logique éco-responsable, récupérer une vieille maquette, une vieille manip qu'on avait fait dans le réseau national depuis très longtemps pour parler du mix énergétique. Et en fait, on l'a rénovée en la rendant plus interactive, et en développant un petit peu le fond de fonctionnement des différentes énergies, des sources de production. Et donc, on présente ça. On présente une maquette qui explique ce que c'est que le mix énergétique, pourquoi c'est important de mixer les énergies, quels sont les enjeux actuel et d'avenir sur la question de la gestion, de la consommation aussi de l'énergie au sens large. Aujourd'hui, on fait ça.
Et nous, de notre côté, on présente trois jeux. On a un bingo des stéréotypes, le même principe qu'un bingo classique, mais on présente plus des chiffres sur l'état du sexisme et des stéréotypes en France sur les dernières statistiques qui sont sorties là entre 2019 et 2024. Donc ça marche bien, ça nécessite, enfin ce matin on a eu beaucoup de débats avec les personnes qui sont venues sur le stand. Et sinon on a un deuxième jeu où là le but c'est vraiment de découvrir les femmes scientifiques de l'Antiquité à nos jours avec un petit jeu à choix où chaque siècle on découvre une nouvelle femme sans dire qui c'est au début. Les gens font un choix selon ce qu'on leur propose. Par exemple, vous êtes une sage-femme à telle époque et c'est une époque où les femmes n'étaient pas vraiment autorisées à pratiquer la médecine. Qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation ? Vous déguiser en homme ou renoncer à exercer ce que vous vouliez faire. Les gens font le choix et nous, on leur explique après l'histoire de la femme derrière. Et donc après, on arrive à l'époque récente et là, on présente un petit peu comment aujourd'hui ça se passe et quelles sont aujourd'hui les femmes qui font la science aujourd'hui.
Du coup, pour clôturer cette émission, qu'est-ce que ce genre d'événement, le FENO par exemple, comme celui-ci, vous apporte, apporte à votre structure et au grand public ? Qu'est-ce que ça vous apporte, cet événement ?
De la représentation, surtout. Enfin, je pense que c'est important, déjà, pour rencontrer les autres acteurs, puisque sur tout cet espace-là, on est beaucoup d'associations, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur à venir pour présenter ce qu'on fait. Donc, ça permet aussi de créer un espace d'échange et d'interconnaissance des acteurs en Normandie. Et puis, surtout, de rencontrer le public et de montrer qu'on existe.
La même chose. Moi, le premier FENO, je faisais autre chose dans la vie. Mais j'y étais au premier FENO à Caen. Et si j'ai bien compris le concept, je pense l'avoir bien compris, c'était de montrer aux Normands ce que font les Normands de bien dans la vie. Et notamment, là, en l'occurrence, ce qu'on fait en partie avec leur argent, parce qu'on a quand même tous un peu de l'argent public. Donc il y a cet objectif-là quand même de montrer ce qui se fait en Normandie et on a des choses à montrer que insoupçonnées par la plupart des Normands. Et au-delà de ça, c'est aussi des rencontres. C'est aussi des rencontres parce que surtout le vendredi, il y a beaucoup de professionnels, on a le temps un peu de passer, il y a un peu moins de monde entre nous, on se rencontre. Et les autres jours, en fait, nous, il y a des enseignants qui viennent là avec leurs enfants, mais ils sont enseignants aussi, donc ça les intéresse. Ils sont contents de montrer à leurs enfants des manips un peu différentes sur des thématiques insoupçonnées. On rencontre des partenaires associatifs aussi. Des fois dans le pôle où on est autour des acteurs scientifiques, mais des fois de complètement autre pôle, on peut tisser des liens. Et puis on rencontre aussi des enfants qui sont notre bénéficiaire cible. Et c'est pas sur les salons qu'on a le temps de développer beaucoup, mais en tout cas, c'est une première accroche aussi. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces facteurs-là qui nous font venir à Fesneau, comme la fête de la science, comme des fois des plus petites manips scientifiques dans des villes moins importantes où on est aussi content d'aller quand il y a des festivals de la science sur des après-midi. J'en pense un à Sommervieux, par exemple. Voilà, c'est... Nous, on vient dans ce genre d'endroit pour tout ça. À chaque fois, la même chose.
Merci à vous, Louane Caillot et François Berthemont, pour avoir répondu à notre question.
Merci.
Merci de nous avoir reçus.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Enzo pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.